Notre invité est donc un jeune auteur dramatique de 93 ans qui publie trois de ses pièces qui mêlent histoire et fiction. Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Cellule 107, nous sommes dans la prison de Fresnes en octobre 45 avec deux prisonniers, Pierre Laval, symbole de la collaboration, l'homme le plus détesté de France qui a dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Face à lui, René Bousquet, le préfet de police, l'homme de la rafle du Veldiv. Le premier doit être fusillé le lendemain, le second restera impuni, acquitté pour service rendu à la résistance. Les dialogues que vous avez imaginés jettent une lumière terrible et passionnante, mais ils sont plausibles. Vous avez découvert, Robert Badinter, que Laval et Bousquet se sont réellement rencontrés en prison.
Oui, ça a été une surprise pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches sur le procès Bousquet et je me suis aperçu à ce moment-là que Bousquet avait été la dernière personne à s'entretenir avec Laval avant sa tentative d'empoisonnement et son exécution. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ? Avec, cependant, une indication précise, c'est que je sais par expérience que les condamnés à mort ne veulent pas être exécutés. Et dans le cas de Laval, c'est facile de savoir ce qu'il a pu dire à Bousquet. Tout simplement, vous prenez la longue déclaration de Laval au procès Pétain et vous prenez la déclaration de Laval à son propre procès et vous avez les lignes de défense.
Ce qu'il n'a sans doute pas pu exprimer à ses procès, à ses deux procès, mais que vous mettez dans sa bouche dans cette pièce, c'est son immense amertume à l'égard de Pétain.
Oui, pour moi, c'est le fil conducteur. C'est la haine, le terme n'est pas trop fort, de Laval à l'encontre de Pétain, et je pense réciproquement. Ouais.
Alors que, en face, Bousquet est un admirateur du maréchal Pétain. Et d'ailleurs, Laval s'adresse à Bousquet dans votre pièce, dans les dialogues que vous avez imaginés. Dites-moi, Bousquet, pourquoi avez-vous aimé Pétain ?
Et Bousquet répond comme tous les Français.
Oui.
Je l'ai aimé parce qu'il symbolisait la gloire de jadis, parce qu'il apparaissait comme un protecteur possible. Vous savez, c'est extraordinaire de penser qu'il y a eu deux grands, je dirais, des espoirs de la préfectorale française, et que c'était d'un côté Jean Moulin, dont on connaît la destinée héroïque et tragique, et de l'autre côté Bousquet.
Laval-Bousquet, deux ambitieux, un politique, un fonctionnaire, mais deux grandes ambitions.
Oui, quelque chose quand même qui est apporté au crédit de Laval, c'est que Laval, il a fait une carrière extraordinaire politique. Laval, c'est quand même le fils du petit aubergiste auvergnat.
De Châteldon.
Oui, Châteldon. Il disait toujours dans les meetings et tout le temps, je suis un enfant du peuple, moi. Et c'est vrai. Mais il a quand même été, sous la Troisième République, 13 fois ministre et 3 fois président du Conseil. Mmh. C'est dire l'ascension prodigieuse de Laval. Il en tirait à la fois un avantage dans les métiers. Ah, je suis un fils du peuple, mais aussi ça témoignait de ce qu'il appartenait à l'élite républicaine. Et il s'était fait lui-même.
Et il s'est dévoyé auprès de Pétain, mais il se défend. Évidemment, le sort des Juifs est au cœur des discussions entre Laval et Bousquet. Laval se défend avec le système de défense qu'on lui connaît. J'ai laissé les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre Pétain et Laval, l'antisémite, c'est Pétain. Sauf que le maréchal a eu la prudence de ne jamais faire de propos publics dans ce sens, Robert Badinter.
Oui, Pétain était, par son milieu d'origine, l'armée, la carrière militaire, évidemment, disons-le, antisémite. Il a rajouté d'ailleurs des interdictions aux Juifs, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Mais Laval, lui, s'en fichait. Ça ne l'intéressait pas. Bon, ça intéressait les nazis au premier chef, Et il a pris des décisions qui étaient conformes à la volonté de ceux qu'il considérait comme les vainqueurs certains et les alliés potentiels. Donc que Laval soit, je le dirais brutalement, un salaud et une canaille politique, je le crois volontiers, lui prêter un antisémitisme couleur de sang et de cendre aujourd'hui, c'est aller trop loin dans la vérité historique. Mais qu'il ait livré les Juifs étrangers, qu'il ait surtout, ce qui est un crime épouvantable, livré des enfants aux nazis pour être déportés après que leurs parents l'aient été. Ça, c'est le crime contre l'humanité impardonnable. Il ne se rendait pas compte où il feignait de ne pas s'en rendre compte, parce que s'il y a eu ce propos extraordinaire, il a dit deux fois en public, quand il a comparu au moment du procès Pétain comme témoin, et ensuite quand il a comparu comme accusé, deux fois il a dit « Je voudrais n'être jugé que par des Israélites français, car ils savent tout ce qu'ils me doivent. » Je mesure l'inconscience, l'audace du personnage.
Et puis vous ne vous remettez pas de l'acquittement de René Bousquet. Scandale judiciaire.
Oui, c'est un scandale judiciaire. Bon, c'est Laval n'est pas à l'avantage de la justice française.
Mais dans l'autre
Mais
sens.
Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Bousquet et qui m'a toujours captivé. Bousquet était le chef de la police de Vichy. Bousquet, on le sait, a été un des hommes qui ont le plus de responsabilités dans le génocide des Juifs de France, dans la livraison aux nazis des Juifs. Eh bien, Bousquet est arrêté par la CIA au moment même où les armées américaines arrivent en Bavière, interrogé pendant deux jours. Et puis la CIA, on le sait, lui a proposé de partir en Amérique sous une nouvelle identité, de refaire sa vie. Il a dit non, je veux rentrer en France. Il a été livré aux Français, ramené immédiatement à Paris. Trois ans après, il est jugé.
Tard.
La Cour de justice.
En 49, oui.
Composée de parlementaires résistants. Bousquet est acquitté, et non seulement acquitté, intelligence avec l'ennemi, mais en plus, Bousquet est relevé de l'indignité nationale au motif des services qu'il a rendus à la résistance. C'est-à-dire qu'il est le seul de son espèce, à ma connaissance, qui soit sorti de la Cour de justice avec un brevet de résistant. Alors après ça, il pouvait se montrer dans Paris.
Il s'est montré dans Paris.
Il s'est beaucoup montré dans Paris. Pas seulement dans Paris.
Il a eu une carrière dans le privé, il avait pignon sur rue, etc. Cet acquittement de la haute cour, c'était l'un des arguments de François Mitterrand pour justifier de ses liens avec Bousquet quand cette amitié-là a été révélée.
Mais encore une fois, il est le seul à pouvoir dire « Mais voilà la règle. » C'est pas seulement acquitté au bénéfice du doute, c'est nous vous relevons l'indignité nationale, nous, haute cour, pour les services rendus à la résistance. Alors, pourquoi? Comment? Ça, j'ai cherché partout.
Et comment expliquez-vous, Robert Badinter, j'imagine que vous êtes posé la question, qu'il ait fallu 30 ans pour que son rôle soit mis en lumière, révélé avec l'importance que vous venez de souligner?
Mais réfléchissez-y. Vous avez raison de dire 30 ans.
30 ans, 78.
Mais qui l'a dénoncé?
D'Arquette Pellepoix.
Qui l'a dénoncé? D'Arquette Pellepoix.
Ouais.
C'est-à-dire un antisémite forcené commissaire, deuxième commissaire aux questions juives, mais un antisémite forcené dans une interview qu'il a donnée.
À l'Express.
Oui, à De Rogy, à l'Express. Donc c'est uniquement grâce à ça qu'on a d'un seul coup déchiré, si je puis dire, le masque et le voile qui entourait l'affaire Bousquet. C'est dire qu'il y a un mystère Moi, j'aurais tant voulu trouver qui pouvait être responsable de cet acquittement.
Et pour ce qui est de François Mitterrand, je l'évoquais, c'est une affaire privée entre Mitterrand et vous, Robert Badinter.
Il y a, je tiens à le dire très simplement, moi, je n'ai jamais vu Bousquet de ma vie. Je sais que Bousquet et Mitterrand ne se connaissaient pas à Vichy. Après, il a été en prison. Donc, le Bousquet qu'a fréquenté Mitterrand, c'est le Bousquet avec le certificat de résistance de la haute cour. On en revient toujours à ça. Pourquoi, comment, qui? Et moi, je ne le sais pas. Alors, le reste.
Dans votre recueil, Robert Badinter, le procès d'Oscar Wilde, que vous qualifiez de suicide judiciaire.
Oui.
Et puis, les briques rouges de Varsovie, c'est une partie de l'histoire du ghetto, une histoire qui vous passionne, qui vous hante.
Oui, c'est vrai que c'est le point ultime, un des moments les plus intenses, les plus désespérés du génocide juif de la Shoah. Là, les nazis avaient procédé selon un projet conçu de longue date, faire administrer les communautés juives rassemblées dans des ghettos par un conseil juif élu par les juifs. Et évidemment, partager les souffrances, mais avec des privilégiés. Puis vous savez, l'humanité, ce qu'elle est. Vous ne réunissez pas près de 400 000 personnes dans un espace qui est égal à la moitié du 18e arrondissement. Vous ne pensez pas que ce sont tous des héros. L'espèce humaine est multiple. Il y a des héros, mais il y a aussi des trafiquants, mais il y a aussi des marchés noiristes, mais il y a aussi des salauds. Et puis, il y a l'administration que les Allemands avaient déléguée au Conseil juif, avec une police juive qui fait l'objet d'une exécration de la part de tous les mémorialistes du ghetto lui-même, et qui, pour sauver leur vie, acceptaient d'arrêter les autres. C'est une intensité dramatique telle que j'en ai été, je l'avoue, captif pendant des mois. Je lisais, je relisais, toujours des mémorialistes, les uns par les autres. Il y avait une très bonne école d'histoire à Varsovie, avec des professeurs juifs très célèbres, historiens, qui tenaient au jour le jour la chronique de la vie du ghetto. C'est épouvantable, épouvantable, la souffrance humaine. Je me suis libéré de ça, mais je n'ai pas voulu le faire représenter à ce moment-là. Maintenant, le moment est venu.
Ces trois pièces, Robert Badinter, témoignent de votre passion pour le théâtre. Elles seront peut-être suivies par d'autres pièces, puisque le recueil s'intitule Théâtre 1. Donc
je suis déjà en train de travailler sur Théâtre 2. Je suis en train d'achever une pièce.
Donc passion pour le théâtre, passion cachée
Pas passion cachée, passion ouverte, mais l'écriture des pièces de théâtre, c'est différent du plaisir d'aller voir représenter les pièces des autres, et notamment les chefs-d'œuvre. Moi, j'ai toujours aimé passionnément le théâtre. Je le dis depuis que adolescent, enfin, oui, quand je suis revenu à Paris après la Libération, je me suis précipité au théâtre. C'était le fait de toute une génération d'étudiants de la Sorbonne. Et je rappelle l'intensité de la création théâtrale, et pendant l'occupation, et après l'occupation. C'est l'époque dans laquelle chaque saison apportait son lot de pièces nouvelles. Je n'ai pas besoin de dire que pour un étudiant à Sorbonne, aller voir la pièce de Sartre, ou la pièce de Camus, ou celle de Beauvoir, ou Ionesco, ou Anouilh, ben, c'était pour nous un attrait considérable, mais on suivit ensuite de discussions passionnées. Et j'ai toujours, depuis cette lointaine époque, aimé passionnément le théâtre. Je considère que c'est l'art littéraire supérieur.
Bon, et la vocation de ces textes, c'est évidemment d'être un jour joué et mis en scène.
Oui, mais ça, quand? Il faut pour ça que les théâtres rouvrent.
Ouais. Vous avez déjà des retours, des signes d'intérêt après l'apparition de ces textes ?
J'en ai quelques-uns. Si les théâtres fonctionnaient, ce serait plus satisfaisant. Je me suis d'ailleurs interrogé à propos de la situation des théâtres et je me suis dit, une fois les vaccins, la campagne de vaccins achevée, même si on doit prendre des précautions sanitaires, il faut rouvrir le théâtre. Et je ne dis pas ça pour plaider la cause d'amis metteurs en scène ou comédiens, mais parce que même devant une salle à moitié vide pour des raisons sanitaires, même si vous avez un spectateur sur deux, eh bien, les acteurs sont faits pour jouer, les pièces pour être représentées, et les metteurs en scène rêvent, et on voit leurs rêves se réaliser. Donc, même si vous avez, comme ça arrive, la moitié seulement du théâtre rempli, eh bien, le théâtre, si je puis dire, remplit sa fonction. Et cette fonction est, à mes yeux, essentielle.
En attendant, vous êtes sur tous les plans et alors sur plusieurs étals de librairie, puisque le livre que vous aviez consacré à Idis, votre grand-mère, a été adapté en bande dessinée. Est-ce que vous avez, par Richard Malka, est-ce que vous avez pu voir le résultat ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un grand admirateur de Richard Malka et d'ailleurs de l'auteur de la BD, je n'aurais pas été capable de faire ce que Richard Malka a fait, je le dis franchement, mais j'apprécie le résultat et je pense que les générations nouvelles qui sont enclines à la consommation élevée de BD, ma grand-mère Idis trouvera là un public nouveau qui apprendra à la connaître. C'est très joli, cette bande dessinée, c'est très très joli. L'arrivée d'Idis, la réunion de la famille, gare de l'Est à Paris, c'est très émouvant et très joli. Et le ghetto aussi, enneigé, c'est très beau comme album, très beau.
Donc la publication de pièces de théâtre, l'adaptation bande dessinée de l'histoire de votre grand-mère, dans quelques mois, le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, certains disent déjà que c'est l'année Badinter qui...
Oh, allons, soyons sérieux. Non, mais les livres, je les... Les pièces, on a évoqué un moment... La bande dessinée, c'est l'œuvre de Richard Malka et de Bernard. La commémoration de l'abolition, c'est évidemment un très grand moment. Un très grand moment parce que, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, il faut mesurer d'où nous venons. Et ce qu'était le rejet par la France, le pays des droits de l'homme, de l'abolition. On ne peut pas dire que ça a été une mesure, je dirais, populaire. Disons-le franchement, c'est une mesure nécessaire et courageuse de la part de François Mitterrand, courageuse en ce qui concerne le Parlement qu'il a voté, mais qu'à l'époque, le public ne demandait pas. On ne l'a pas surpris. Dans tous les programmes de gauche, Mitterrand l'avait dit à la télévision, en cas de majorité de gauche, ce serait l'abolition. C'était la moindre des choses. Je dois rappeler que ce n'est pas une performance, l'abolition en France. C'est un retard qu'on a comblé. Nous étions les derniers de ce qu'on appelait alors communauté européenne à abolir en Europe. Les derniers.
Mais le combat continue notamment aux États-Unis.
Oui, mais à cet égard, Trump s'est montré absolument moralement, moi je le dis clairement, la façon dont il a vidé les cellules de condamnés à mort d'hommes qui attendaient là depuis des décennies parfois, leur exécution, cette précipitation, vouloir les tuer avant de s'en aller, j'ai trouvé ça révoltant. Pour n'importe quel dirigeant, démocratie, grande démocratie, je trouve ça révoltant de marquer son départ par des exécutions. C'est ce qui a été fait. Bon, mais ceci dit, soyons clairs, la marche vers l'abolition, bloquée au niveau de la Cour suprême par les nominations faites par Trump, la marche vers l'abolition se poursuit. Il y a de plus en plus d'États, car la peine de mort dépend de la législation des États pour l'essentiel, de plus en plus d'États abolitionnistes aux États-Unis. On a vu récemment l'exemple de la Virginie. Vieil État, du Sud. Très vieil État, toujours pratiquant la peine de mort, et qui vient d'abolir. Et ça continue. Il n'y a jamais de retour en arrière.
Vous participerez à la fin de l'année à ce qui sera ce 40e anniversaire, je ne sais pas de quelle façon, d'une façon ou d'une autre, pour ce qui vous concerne, Robert Badinter.
On verra. On verra. Ma vieille carcasse le permet, je ferai ce que je dois, sur la devise bien connue.
Et le reste du temps, vous continuerez à écrire?
Je continuerai certainement à écrire et sans doute à écrire des pièces. Je n'envisage pas de retour à la vie judiciaire, je le dis clairement, et je suis sorti de l'arène politique aussi. J'observe, mais je me tais.
Merci infiniment, Robert Badinter. Merci de nous avoir reçus.
Merci d'être venu.